Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, honorer, louer, servir Dieu. Nous avons vu, dans le dernier sermon, dimanche dernier, le service de Dieu par l'édification de la chrétienté, et je vous ai montré que c'était la mission de l'Église sur la terre que de rétablir cette unité entre les hommes et Dieu, entre les hommes vivant en société et Dieu, entre la société politique et l'Église, les amis de Dieu. Je vous ai montré comment les rois, les comtes, les ducs, en période de chrétienté, avaient collaboré avec les évêques et réciproquement. Vous vous doutez bien, mes bien chers frères, que les comtes et les rois et les dirigeants ne sont pas les seuls concernés, non plus que les évêques d'ailleurs, ne sont pas les seuls concernés dans l'édification de la chrétienté. Tout dans l'Église doit être vu et fait pour le bien de toute l'Église, pour le rayonnement de la chrétienté, et c'est pourquoi les individus, les familles, ne s'épanouissent qu'en se dévouant au bien commun, au bien de l'Église, à l'édification de la chrétienté. Encore une fois, on ne peut pas opposer épanouissement personnel et soin de la chrétienté, service de la chrétienté. On peut encore moins définir la chrétienté par l'épanouissement personnel. Ça, c'est l'erreur moderne de Maritain, reprise par le Concile Vatican II. L'homme. Non, la vérité catholique, c'est que l'épanouissement personnel de chacun ne se fait que dans son service du bien commun, c'est-à-dire dans la mesure où il travaille avec ses amis au développement de l'amitié avec Dieu. Cela est facile à comprendre dès qu'on a compris ce qu'était l'Église. Mais on peut le préciser avec quelques citations du Saint-Esprit dans l'Écriture sainte. Par exemple, « Ayez les mêmes sentiments que le Christ Jésus, dit saint Paul aux Philippiens. » Les mêmes sentiments, donc dans le même ordre, c'est-à-dire le bien de l'Église en tout premier. Les sentiments du Christ Jésus n'étaient pas seulement de sauver des individus, mais d'édifier l'Église, de rétablir la chrétienté. Et c'est dans cette chrétienté que les individus se sauvent. Il faut citer également le Notre Père, « Que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. » Or, cette prière est dite par tous les chrétiens, et pas seulement par les rois, les comtes, les évêques ou les prêtres. Notre Seigneur nous dit que la charité englobe Dieu et le prochain. Le deuxième commandement est semblable au premier, dit-il. Et c'est ce commandement de l'amour de Dieu en Dieu et dans le prochain qui fait que nous travaillons tous ensemble au bien de l'Église, à l'édification de la chrétienté. Et je n'ai pas eu le temps de vous en parler la dernière fois, mais c'est une évidence, à ramener les âmes des pécheurs et surtout à ramener au pied de la croix ou à amener au pied de la croix les infidèles qui n'ont pas ou qui n'ont jamais eu la foi. Saint Pie X a beaucoup insisté sur l'action des catholiques dans la cité. Il n'est pas le premier, mais auparavant cela se faisait naturellement. Lorsque Saint Bernard prêche la croisade et que tant de milliers de simples laïcs s'enrôlent pour libérer le tombeau du Christ, Saint Bernard ne parle pas de l'apostolat laïque ni de l'action des laïcs dans la cité, c'est beaucoup plus simple, il enthousiasme les populations à l'œuvre de l'Église, à l'œuvre de toute la chrétienté, à la restauration de la chrétienté et à l'extension de la chrétienté. Mais en raison de la dissolution des sociétés modernes, les papes vont travailler à reconstruire la chrétienté et donc à refaire une société chrétienne et pour cela, ils appellent à eux les laïcs, pas seulement les prêtres et les évêques, mais les laïcs. C'est ce que fait Saint Pidis, notamment dans Il Fermo Proposito, une encyclique en italien, mais une encyclique sur l'action des laïcs dans la cité. Pie XI continuera « Si nous sommes opposés à l'action catholique telle que Pie XI l'a définie, ce n'est pas parce que les laïcs n'ont pas leur place dans la cité de Dieu, loin de là, mais c'est parce que l'action catholique sous Pie XI a été largement influencée par le marxisme et le communisme. Il est évident que la société marxiste et communiste est à l'opposé de la chrétienté. La première œuvre laïque qui est ordonnée essentiellement au bien de la chrétienté et de l'Église, c'est la famille. Vous avez deux sacrements qui donnent une mission dans l'Église, le sacrement de l'ordre, la mission sacerdotale et épiscopale, et le sacrement de mariage, la mission des époux dans l'Église. Comment comprendre cette mission des époux, des parents dans l'Église ? La famille forme des hommes, or un homme est un chrétien au service de la chrétienté. La famille forme ce qui édifie la chrétienté. De même que le maître des novices dans un monastère forme les futurs moines, on peut dire que le père de famille, avec l'aide de la mère de famille, forme l'Église militante, c'est-à-dire ceux qui se dévouent à l'Église. C'est parce que ce service de l'Église et de la chrétienté a été, on peut dire, presque complètement occulté, que les familles sont déboussolées, que les enfants n'ont plus d'idéal et qu'ils font des bêtises. Ou, pire encore, qu'ils se jettent à corps perdu dans un épanouissement personnel. À Fatima, Notre-Dame confie à de simples enfants ses soucis apostoliques, la conversion des pauvres pécheurs. La famille forme des apôtres, en premier elle forme des prêtres. Il est très rare qu'un prêtre n'ait pas été formé d'abord en famille. La première source des vertus sacerdotales, habituellement, normalement, c'est la famille chrétienne. Ensuite, la famille forme ceux qui feront rayonner la chrétienté, qui l'enrichiront, qui lui donneront un cœur plein de foi et de charité par les œuvres de miséricorde. Je vous donne un exemple. Dès la première communion, il faut former à l'amour de la croix. On ne dit pas à un enfant « Par la communion, Jésus est tout à toi », mais on lui dit « Tu es tout à Jésus ». Et donc, donne-toi bien à lui. Lorsque Jésus vient dans ton cœur par la communion, donne-toi bien à lui. Or, très très souvent, on entend le contraire. Jésus est dans ton cœur, garde-le bien, profites-en bien. De même, il ne faut pas dire « Jésus est dans ton cœur, mais tu es dans le cœur de Jésus ». C'est pas pareil. S'il fallait donner l'histoire de l'action des laïcs dans la cité, je ne parle pas des rois et des comtes, on y serait encore demain. Je vous donne comme cela, au hasard, les œuvres laïques de Saint Vincent de Paul, qui ont fait tant de bien au XVIIe, les femmes qui se dévouaient à la suite de Sainte Louise de Marillac et qui n'étaient pas des religieuses, ce pourquoi elles n'avaient pas un habit religieux, mais l'habit des femmes pauvres et simples de leur époque. Il faudrait citer les béates, notamment dans le diocèse du Puy, mais pas seulement, qui étaient présentes dans tous les hameaux du diocèse pour enseigner le catéchisme, réunir les femmes, prier, faire prier pas seulement les femmes, mais les hommes également, le chapelet par exemple. Il faudrait citer toutes les institutrices, tous les instituteurs. Et puis, les laïcs ont une importance particulière en période de persécution. Monseigneur Lefebvre y revenait constamment. Or, nous sommes en période de persécution. On pourrait citer les Vendéens sous la Révolution. une œuvre beaucoup plus aboutie et organisée qui a fait beaucoup de bien, c'est celle de Kadoudal. On pourrait citer les catéchistes en Afrique et en Asie. Le fondateur de l'église de Corée, qui était un simple laïc, il faudra que je vous raconte ça. Les Japonais, qui tinrent uniquement entre laïcs sans prêtre pendant 2 siècles et demi. Tout cela, ce ne sont pas des exceptions. C'est un comportement normal dans une situation exceptionnelle. Ce n'est pas un comportement exceptionnel dans une situation normale. Pour terminer ce sermon, je vais vous raconter l'histoire de la congrégation de Lyon, congrégation de laïcs. L'abbé Linsola voit venir la révolution, il s'organise et dès le début, il va, avec l'autorisation de l'évêque de Lyon, l'archevêque de Lyon, il va supprimer toutes les paroisses et établir 25 missions dans le diocèse. Il prend modèle en cela sur l'église du Tonkin, parce qu'il avait été formé aux missions étrangères de Paris, il devait partir au Tonkin, puis la santé ne le lui a pas permis. Donc il divise le diocèse en 25 missions. À la tête, évidemment, il met un ecclésiastique, aidé par d'autres prêtres qui sont des missionnaires. Mais l'organisation concrète de chaque mission est confiée à un chef de village laïc, lui-même aidé par d'autres laïcs. Le chef de village est nommé par le missionnaire, bien entendu. Il est appelé l'ouvrier évangélique et le prêtre se repose sur lui pour diriger les fidèles. Les prêtres nomment des catéchistes présentés par le chef de village qui a autorité sur eux, sur les catéchistes. Ces catéchistes sont divisés en 3 classes. Les catéchistes stables, hommes ou femmes, qui sont les véritables gardiens des paroisses, chargés non seulement d'enseigner la religion aux enfants, mais d'organiser la venue du missionnaire et de le tenir au courant de tout ce qui touche à la vie de l'Église. On a là exactement la fonction des catéchistes dans les pays de mission en Asie et en Afrique. On a ensuite des catéchistes ambulants qui accompagnent le missionnaire, qui lui cherchent des retraites sûres, des cachettes, qui lui servent de courrier pour rejoindre les fidèles. On en a un exemple dans le récit Le Maquisard de Dieu par Unnerman. Ça se passe en Vendée, puis le prêtre, après cela, ira lui aussi dans le diocèse de Lyon. Et on a troisièmement des catéchistes précurseurs qui vont dans les différentes communes du diocèse où la mission n'a pas encore pénétré. Sans faire semblant de rien, ils enquêtent, préparent le terrain. Donner sa vie pour ses frères était pour tous le risque quotidien, et cela rejoint ce que je vous ai déjà dit. La source de la mission de l'Église, c'est la croix. Elle nous montre que le chrétien ne vit pas pour soi, il vit pour Dieu, donc il accomplit l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Église, et c'est évidemment ainsi qu'il s'épanouit même personnellement. À côté des catéchistes, il y a une œuvre, la Congrégation des Demoiselles, qui avait commencé un peu avant la Révolution. C'est une association de personnes pieuses, peu nombreuses, appartenant à des familles honnêtes et chrétiennes, voyez l'importance de la famille, et chaque associé devait s'affilier secrètement et sans faire connaître l'association 4 ou 5 parentes ou amis pour les porter à la pratique de la vertu et à la charité effective envers le prochain. Donc on a des associés qui, sans révéler l'existence de l'association, vont former quelques affiliés qui sont leurs parents ou leurs amis. À partir de 1790, lorsque les choses deviennent vraiment beaucoup plus graves sous la Révolution française, les associés et affiliés vont travailler à éloigner du schisme les personnes qu'on cherchait à séduire, puisque le drame dans l'Église de la Révolution, c'est pas tellement les persécutions, c'est le schisme dans lequel la Révolution a voulu entraîner les catholiques. créer une église nationale toute dévouée au gouvernement et non plus à Jésus-Christ. Monsieur l'abbé Linsola, comme les bons prêtres, ont pris cela très au sérieux. Quand on étudie les guerres de Vendée, on voit beaucoup plus la lutte contre la République révolutionnaire. Mais quand on étudie le diocèse de Lyon sous la Terreur, on voit beaucoup plus cette préoccupation de préserver les fidèles et les prêtres faibles, de les préserver du schisme. Pourquoi cette différence? Parce que en Vendée, la tentation du schisme a été très faible. Saint Louis de Marie Grillon de Montfort avait envoyé des missionnaires et la Vendée était très forte dans la foi. Le diocèse de Lyon, lui, avait une foi qui était un petit peu vacillante avant la Révolution, et c'est justement ça l'intérêt de ce que je vous raconte, c'est que après la Révolution, le diocèse de Lyon était devenu un diocèse modèle dans la vigueur de la foi et des pratiques des œuvres de charité. Ces jeunes filles étaient réparties en trois classes. Alors, ce qui compte, c'est pas tellement l'organisation, hein. Ce qui compte, c'est ce qu'elles font. Une première classe, une première catégorie, visitait les prêtres, les religieuses, les femmes catholiques qui étaient détenues en prison. Elle leur portait des secours, des subsides, qui venaient de l'abondante charité des fidèles, quoique la majorité, on pourrait même dire la presque totalité des fortunes, eussent été dilapidées par les buveurs de sang, les comités révolutionnaires. C'est-à-dire que la Révolution avait tout pris. Il ne faut pas oublier les mitraillades et les canonnades de la ville de Lyon. Elle a été rayée de la carte. Enfin, ils ont prétendu la rayer de la carte. Eh bien, dans leur pauvreté, les chrétiens donnaient encore généreusement pour ceux qui étaient en prison. La seconde catégorie de jeunes filles visitait à l'Hôtel Dieu les malades féminins, leur faisait l'aumône corporelle, spirituelle. Elles instruisaient celles qui en avaient besoin, elles leur procuraient des prêtres catholiques et conduisaient les prêtres au chevet des malades et des mourants. En secret, en cachette, hein, toujours. Enfin, la troisième catégorie, choisie parmi les plus instruites, était chargée de faire, dans divers quartiers de la ville, le catéchisme aux jeunes filles, celles surtout qu'on pouvait disposer à la première communion. Alors, mes bien chers frères, j'aimerais bien vous parler plus longtemps de ces sujets importants. Un sermon doit former les chrétiens, et vous comprenez pourquoi je m'étends, et j'y reviendrai dans d'autres sermons, je m'étends sur ce qui vous revient à vous, chers fidèles. Je sais qu'il y a aussi des prêtres qui m'écoutent, ils seront heureux que je leur expose ce que l'Église a toujours demandé aux prêtres, à savoir d'avoir des laïcs qui prolongent leur apostolat, qui prolongent leur action. Et donc dans ce sermon, comme dans le précédent, je ne vous fais plus de la théorie, je vous illustre concrètement ce qu'est la vie de l'Église telle que vous, bien chers fidèles, vous devez la pratiquer. Je termine puisque ce serment était sur la famille, je ne l'ai pas oublié. Il est évident que ces jeunes gens, ces jeunes filles généreux, ne sont pas le fruit de l'abbé Linsolas seulement. Le fruit a commencé à mûrir en famille. Cela nous fait comprendre ce qu'est une famille. Elle forme les apôtres du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien pourquoi on appelle l'Église ici-bas Église militante. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous, formez en nous de véritables apôtres. Jésus, Marie, Joseph, formez de saintes familles catholiques, formez surtout des parents conscients de leur mission et des enfants généreux pour répondre à l'appel de l'Église partout où le règne de Jésus-Christ doit être étendu. Que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.